Bonjour, chers amis de Radio Silence. Nous allons aujourd'hui parler des gesticulations fiscales. Depuis des semaines, tous les journaux bruissent d'informations diverses autour d'une réforme fiscale sur le patrimoine et les revenus du patrimoine. Va-t-on ou ne va-t-on pas supprimer l'ISF ? Les dernières nouvelles sont pour annoncer une modération de cet impôt, mais avec la création d'une sorte d'impôt nouveau que l'on appellerait l'IRF. Le tout se passe dans une atmosphère irrespirable d'usine à gaz, comme si des impôts nouveaux pouvaient créer du gaz là où il n'existe pas. Personne ne peut imaginer l'intensité de la ruine imposée à tous les entrepreneurs du pays par les inondations de lois auxquelles s'ajoutent les variations permanentes dans cette loi et les annonces de ces variations. Chacun est alors obligé de s'adapter à des éventualités dont personne ne sait si elles arriveront. L'inondation de lois est comme une marée noire où la vitalité du pays vient s'engluer. La seule question qui vaudrait la peine d'être annoncée, c'est-à-dire la réduction massive des dépenses publiques, est un sujet tabou dont personne ne parle, sauf à expliquer, à l'évoquer en riant sous cap. Toute cette agitation autour de la fiscalité du patrimoine se résume à des gesticulations politiques et n'empêche pas de voir filtrer dans les mêmes journaux par divers échos le crime silencieux des impôts locaux en accroissement constant. C'est l'occasion de rappeler une autre gesticulation que fut la suppression, à la surprise générale et par une sorte de coup d'état fiscal, de la taxe professionnelle. Un beau jour, en 2009, notre bien-aimé leader, sans avoir prévenu personne, a brusquement annoncé que la taxe professionnelle disparaîtrait en 2010. Le budget de l'exercice 2010 comporte à cet égard 235 pages avec 1257 alinéas. L'enfer fiscal français, alimenté largement au feu de l'imagination débordante de Bercy, est toujours pavé de bonnes intentions. Apparemment, en effet, la suppression de la taxe professionnelle serait justifiée puisqu'elle frappait principalement les investissements sources de richesses futures et qu'à ce titre, elle pourrait sauver les entreprises et freiner les délocalisations. Cette considération est mensongère, car cette taxe n'est pas la seule à nuire aux entreprises et tous les impôts sont mauvais. Ceux qui remplacent la taxe sont meurtriers de toutes les façons, soit directement quand les entreprises les payent, soit indirectement quand ce sont leurs clients ou leur personnel qui les supportent. Dès l'annonce de l'événement, les courtisans se sont activés de multiples manières. Les uns, pour ne pas être en retard dans la flagornerie, ont salué le prétendu génie de la mesure. Les autres ont dû, dans la hâte, actionner leur ménage pour imaginer comment remplacer cet impôt qui finançait 50% des budgets des collectivités locales. L'événement est intervenu au moment où l'on s'occupait du millefeuille de ces collectivités. L'embrouillamini, introduit par la perspective du changement dans les collectivités, s'est donc entremêlé avec celui qui provenait de la suppression de la taxe professionnelle. Les phrases idiotes ont fleuri. Nous savons que s'il détruit les industries, le dirigisme est expert dans la fabrication de telles phrases. Un énarque a dit « La suppression de la taxe professionnelle assure l'avenir de la France. » Sic et recic. Un politique a renchéri « Cette mesure sera un accélérateur de la sortie de crise. » Des promesses mensongères ont été tout aussitôt lancées dans le public. Les ressources perdues par les collectivités locales seraient retrouvées à l'équivalent par la création de nouvelles taxes ou par des transferts étatiques. C'est une promesse structurellement mensongère, car dans les usines à gaz incroyables du système fiscal français, personne ne sait jamais où va exactement l'argent et d'où il vient, ceci malgré tous les jeux d'ordinateurs possibles. Depuis lors, l'imagination fiscale s'est bien développée en majesté et une kyrielle d'impôts nouveaux a été créée. La tête de pont et la contribution économique territoriale CET qui est composée de la cotisation foncière des entreprises CFE qui reprend une grande partie des dispositions qui étaient applicables jusqu'à maintenant à la taxe professionnelle et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qui remplace la cotisation minimale de taxe professionnelle. Chacune de ces cotisations est soumise à des règles différentes. La somme de ces deux cotisations correspond au montant global de la contribution économique territoriale à payer par l'entreprise qui peut faire ensuite l'objet d'une réduction au titre du plafonnement de la valeur ajoutée ou de la réduction temporaire pour accroissement de taxes pour les entreprises qui existaient déjà avant 2010. Les usines à gaz prolifèrent décidément comme du chien dent et elles ne sont pas sans influence sur les délocalisations d'entreprises. Avec la disparition de la taxe professionnelle, se profilaient d'une façon dramatique les finances des collectivités locales, dont elles représentaient 50% des ressources. Si les acteurs au sommet avaient supprimé des dépenses étatiques, avec en premier lieu les dépenses les concernant personnellement, ils auraient pu conseiller fortement, dans cette occurrence, aux dirigeants des collectivités locales de faire de même. Le sinistre méfait aurait pu se transformer en bienfait. L'exemple nécessaire ne venant pas du sommet, les collectivités locales ont tout simplement été conduites à trouver d'autres ressources sans ralentir en rien leurs dépenses, à la grande joie des élus. Rappelons que ces collectivités locales, dont l'importance est considérablement accrue suite aux deux décentralisations, sont largement à l'origine de la paupérisation de la France. Supprimer les dépenses et d'abord supprimer les montants extravagants qui profitent à ces élus et aux dirigeants de ces collectivités, c'est aussi tailler dans le vif de leurs activités, soit inutiles, soit faisant double ou triple emploi avec d'autres. Un point important est à signaler avant de conclure, ce point étant souvent non perçu. Il est parfaitement vain de parler de simple réduction des dépenses publiques et de simple réduction de la fiscalité. Ces objectifs sont parfaitement impossibles à atteindre dans l'état d'esprit des politiques au sommet et cela s'inscrit dans les échecs successifs des projets de réforme de l'État. À supposer qu'après des palabres interminables et des délais insupportables, il y aurait un résultat, ce résultat serait minime. En outre, si l'on parle dans les deux cas de simple réduction, on laisse en place la souche dont les rejets vénéneux repousseront très vite. Un pouvoir libérateur finira bien par arriver un jour sous les décombres du désastre français. La feuille de route comporterait une direction impérative, suppression rapide et immédiate de certains impôts particulièrement meurtriers et de beaucoup de dépenses notablement idiotes. Les dépenses supprimées devront dépasser le montant des impôts supprimés afin, avec la vente du patrimoine public, de conduire à une régression de la dette. La suppression totale des impôts signifie la disparition des contentieux, des déclarations, des réglementations, des bureaux, du personnel nécessaire. Celle des dépenses conduit aussi à la disparition de l'appareil d'État correspondant, avec en plus celle de l'effet négatif propre à une foule de dépenses inutiles. Le public ne pourra qu'applaudir dès lors qu'il retrouvera très vite, dans tous les niveaux de la société, compte tenu des impôts supprimés, de l'argent dont il avait perdu le souvenir. Chers amis auditeurs, je vous dis à mardi.